Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
La grande édition avec Didier Arnoux. Bonjour Didier.
Bonjour Michael, bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, nous ferons un point sur la situation dans l'aérien. Grève ou pas des contrôleurs aériens demain, ça bouge, ça discute pour éviter un jeudi noir. Ce matin, le président du directoire d'Air Corsica a été l'invité de RCFM. Nous reviendrons sur le soulagement du côté du Sporting de Bastia. La victoire face à Concarneau assure le maintien. De son côté, l'ACA revient de Valenciennes avec une défaite. Il sera aussi question des travaux pharaoniques du parking Diamant à Ajaccio, du groupe Casino qui se prépare en Corse à changer de main. Et puis nous parlerons ce 24 avril du génocide arménien. Et on débute avec cette surprise dans l'aérien. Le syndicat majoritaire des contrôleurs aériens a levé son préavis de grève. Le SNCTA précise que des discussions de dernière minute ont eu lieu jusque tard dans la nuit avec la Direction générale de l'aviation civile et qu'un accord a été trouvé. Clémence Gourdon-Negrini, bonjour.
Bonjour Didier, bonjour à tous.
Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous en Corse?
Eh bien pour l'instant, pas grand-chose Didier. L'incertitude perdure ce midi pour le trafic aérien de nos quatre aéroports. Le SNCTA est bien le syndicat majoritaire des aiguilleurs du ciel à l'échelle nationale. Mais chez nous, pour les 70 contrôleurs aériens de l'île, c'est l'UNSCA ICNA, qui est majoritaire, et ce syndicat-là, tout comme deux autres, n'ont pas levé leur préavis. D'ailleurs, ils déplorent de ne pas avoir participé aux discussions de dernière minute avec la DGAC, d'autant plus que les revendications ne sont pas tout à fait les mêmes. Avant de parler de ces revendications, Didier, petite précision concernant l'aéroport de Figari. Ce matin, le président du directoire d'Air Corsica annonçait sur notre antenne qu'il serait fermé demain. La levée de grève du syndicat majoritaire ne devrait pas y changer grand-chose, puisqu'à Figari, c'est FO qui est majoritaire et qui n'a donc pas levé son préavis, en tout cas pas pour l'instant.
Alors tout va donc dépendre de cette réunion prévue dans quelques heures, cette fois avec l'ensemble des organisations syndicales. Quelles sont les revendications, Clémence?
Eh bien, en ce qui concerne les syndicats majoritaires, chez nous, c'est la refonte voulue par la DGAC, bien sûr, qui bloque, tout comme pour le syndicat majoritaire, d'ailleurs. Mais les autres syndicats insistent sur le fait que cette réforme intervient dans un contexte global de protestation contre un énorme retard de modernisation. Les contrôleurs aériens expliquent qu'ils travaillent sur des outils vieux de 30 ans, et pour le peu qui commence à bénéficier d'un matériel plus moderne, ils déplorent de nombreux dysfonctionnements. En parallèle, les effectifs baissent, alors que le trafic aérien, on le sait, est en constante augmentation. Ils jugent donc que tout cela est autant de difficultés à résoudre avant de se lancer dans ce qui est vu comme une réforme pour la réforme, un projet qualifié de démesuré. Réformer, oui, répondent les aiguilleurs du ciel, mais dans un projet raisonnable avec une contrepartie sociale des nouveaux efforts à fournir. En parallèle, ils regrettent évidemment que le syndicat majoritaire national ait été le seul à être convoqué la nuit dernière et qui insiste seulement sur les salaires. Ils craignent que l'accord trouvé la nuit dernière ne se consacre qu'à ce point et qui est donc loin d'être le premier selon eux.
Merci Clément. C'est dans un instant l'interview de Pierre Mouratchoul, le président du directoire d'Air Corsica. Air Corsica qui a accueilli des élèves du lycée Laetitia Ajaccio. Une rencontre en partenariat avec le rectorat qui a permis à ces élèves spécialisés dans l'industrie de visiter les coulisses de la compagnie. Visite du nouvel Airbus A320 Neo reçu il y a quelques jours. Présentation des métiers de l'aéronautique et surtout perspective de recrutement, car la compagnie espère bien débusquer de futurs salariés parmi ses lycéens. Reportage de Léria Maria Mousse.
Mécanicien, avion, ingénieur, logisticien, pilote de ligne, mais aussi hôtesse, steward ou technicien. Les possibilités de formation ne manquent pas. Et Jean-Luc Lemoine, le directeur technique d'Air Corsica, espère bien faire passer le message.
C'est pour leur donner envie, pour leur dire que, un, il y a des besoins. Donc, c'est des métiers à forte valeur ajoutée, donc des niveaux de rémunération qui sont plutôt intéressants. Et ce n'est pas des besoins qui sont ponctuels. C'est quelque chose, on en a besoin aujourd'hui, on en aura besoin demain. Sur les 5 prochaines années, il y a un besoin de mécanicien qui va tourner chez Air Corsica autour d'une vingtaine de personnes. Ça veut dire qu'on a des perspectives d'embauche sur les 5 prochaines années de 4-5 personnes par an.
La présentation achevée, les élèves ont assisté à une conférence d'Hervé de Saint-Exupéry, ancien pilote de chasse, pilote de ligne et arrière-petit-neveu du célèbre aviateur écrivain.
Les valeurs que j'essaye de leur inculquer, c'est tout d'abord les valeurs liées à ma propre famille, l'héritage d'Antoine de Saint-Exupéry, qui sont la responsabilité, la fidélité, mais il y a aussi les valeurs de l'aviateur. Le respect, l'intégrité, le sens du service. service et l'excellence.
Une conférence qui a soulevé de nombreuses interrogations chez les lycéens.
Le bac, qu'est-ce qu'on doit faire si juste le bac nous suffit ?
Super, excellente question.
Et peut-être susciter des vocations. Sébastien, 16 ans.
Ils ont su nous donner, nous faire envie un peu par rapport à leur métier. Et franchement, pourquoi pas s'intéresser un peu plus pour peut-être travailler ici.
Rendez-vous donc après le bac.
Et le président du directoire d'Aircourt, le grand patron Pierre Moraccioli, était ce matin l'invité de RCFM, invité de la matinale. Il répondait aux questions de Caroline Saglione.
Bonjour Pierre Moraccioli.
Bonjour Caroline.
Alors, on va parler de l'actualité immédiate d'Aircourt, c'est qu'à cette grève demain, grève des aiguilleurs du ciel, qui va impacter quand même votre compagnie, même si dans le cadre de la continuité territoriale, il y a un service minimum qui va être assuré quand même.
Alors effectivement, c'est vrai, on s'attend à un jeudi noir demain en matière de transport aérien sur toutes les voies aériennes métropolitaines et notre service sera fortement impacté. Pour autant, si à Figari, nous savons déjà que l'aéroport sera fermé parce qu'il n'y a pas de contrôleur du tout, pour autant, on aura quand même des liaisons, au moins une liaison entre la Corse et le continent, au départ de Calvi, Bastia et Ajaccio. Je pense qu'on a fait un gros travail de préventif, hein, puisqu'on a prévenu tous nos clients. On est en contact permanent avec eux, on leur donnera les indications qui vont bien et aussi on renforcera probablement notre programme dès vendredi de façon à pouvoir acheminer les passagers qui n'auront pas pu faire leur voyage jeudi.
Alors Air Corsica est tranquille pour 4 ans ou presque, hein, puisque votre compagnie a remporté la délégation de service public sur le bord à bord puis sur Paris avec Air France. Mais tous les 4 ans, c'est un petit peu l'épée de Damoclès. Hein. L'Europe veille, les élus en Corse disent qu'il faut faire évoluer le modèle. Alors, le modèle actuel, Pierre Moraccioli, est-il encore viable ?
C'est la bonne question. D'abord, je vais vous dire que ce n'est pas parce que nous avons obtenu les deux DSP, bord à bord, et Paris avec Air France, que nous sommes tranquilles pour 4 ans. La réalité, c'est que ça, c'est la photo. Maintenant, il faut jouer le film. Et ce film sera compliqué parce qu'il y a une incertitude sur l'amélioration de la dotation dont dispose la région Corse. Vous savez, d'ailleurs, il y aura une session et un rapport qui sera présenté
demain.
À l'Assemblée demain et après-demain.
Ouais, pour une nouvelle rallonge de 40 millions
d'euros. Il y a un vrai sujet de financement. Exactement, vous savez que cette dotation est figée depuis 2009, même s'il y a eu deux coups de pouce récents. Ça ne suffit pas pour compenser les surcoûts exogènes auxquels nous devons faire face. Sur le carburant, bien sûr, et vous avez peut-être noté qu'il y avait une crise qui avait un impact très lourd sur le prix du kérosène et aussi la fiscalité verte, puisque nous sommes impactés à la fois par la réglementation européenne et la réglementation française, et que ça va crescendo.
Une DSP, ça se prépare bien à l'avance, c'est compliqué de savoir de quoi va être fait le prochain cahier des charges, donc on imagine que vous travaillez, et vous travaillez peut-être donc sur ce nouveau modèle dont on parlait il y a quelques instants.
Alors, effectivement, il n'est pas encore tout à fait sur la table, mais il va l'être bientôt, puisque, bien évidemment, une compagnie aérienne, c'est une mécanique, c'est une logistique considérable. Il faut avoir les ressources qui vont bien. Ces ressources, elles sont à la fois humaines et matérielles. Donc, il est clair qu'un cahier des charges est extrêmement dimensionnant, structurant pour une compagnie aérienne. Il faut s'y préparer. 2 ans, ça ne sera pas de trop. Nous allons entamer, bien évidemment, un travail collaboratif avec toutes les parties concernées, bien sûr la région, mais aussi Chambre de commerce, mais aussi Office du tourisme, bien sûr, puisque quand il s'agit d'aérien, il y a certes un problème de continuité territoriale qui s'adresse à nos passagers résidents, mais aussi on doit être un élément moteur de l'attractivité de la Corse. Hein.
Alors Air Corsica, c'est un tarif résident, un service de boisson gratuit à bord, un bagage gratuit également en soute. Vous faites figure un petit peu d'exception hein, par rapport à toutes les compagnies où les services sont payants, des compagnies qui sont parfois plus grosses que les vôtres. Alors comment vous faites pour être aussi compétitif aujourd'hui encore ?
D'abord, sommes-nous réellement compétitifs ? Et on le voit bien puisque l'activité d'Air Corsica, elle est à 90% sur le service public et 10% sur le hors service public. Hein. Je vous parle du Lyon, je parle de Toulouse, je parle de Charleroi, je parle de Vienne, Salzbourg, bref, un certain nombre d'autres destinations en dehors du service public qui ne représentent que 10% de l'assiette totale de l'activité d'Air Corsica. Bon, cette compétition, et c'est vrai que toutes les compagnies essayent d'améliorer leurs coûts et aussi, comment dire, la qualité de leurs recettes. Leurs recettes, c'est pas seulement siège, c'est toutes les prestations dites ancillaires, les prestations annexes. C'est la vente d'un siège en particulier, ça va être de la restauration, un snacking, toutes sortes de choses payantes. Et c'est ce chiffre d'affaires additionnel n'est pas neutre, parce que maintenant on constate que grosso modo ça peut représenter jusqu'à 20-25% de la recette d'une compagnie aérienne. Vous voyez que c'est considérable. Pour le moment, nous ne le faisons pas à plein, mais c'est effectivement un sujet que nous regardons attentivement, parce que si nous assurons un service avec les meilleures qualités de sécurité qui puissent exister dans le monde du transport aérien, on doit aussi proposer des choses, proposer des options à nos passagers, parce qu'ils en sont friands, ils le demandent. Je vous rappelle quand même qu'on a maintenant ce qu'on appelle un IFE à bord, In-Flight Entertainment, ce qui veut dire que nous avons un Wi-Fi sur nos avions qui permet de diffuser des programmes, qui permet de voir la presse. Enfin bref, toutes ces choses-là qui n'existaient pas il y a ne serait-ce qu'un an.
Pierre Muraccioli, une dernière question, hein, une réponse de quelques secondes. Les Corses se sont étonnés de voyager dans des avions affrétés à des compagnies lituaniennes, des pays de l'Est, des avions qui sont souvent en retard. Alors, pourquoi ces compagnies affrétées? Un problème de commande d'avions, un problème de pilote? En deux mots. Hein.
En deux mots, très rapidement. D'abord, pays de l'Est, non, c'est les pays européens. Première chose. Et qui correspondent aux standards les plus élevés de l'aviation, eux aussi, puisque nous n'affrétons pas des compagnies qui n'auraient pas toutes les certifications qui vont bien. Deuxième chose, c'est conjoncturel. Air Corsica est en renouvellement de flotte. Nous avons procédé à pas moins de 17 entrées et sorties d'avions.
Donc vous attendez des avions.
24 mois. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la supply chain des avions est grippée, hein, depuis la sortie Covid. Donc il faut relancer cette chaîne. Et les avionneurs, ceux qui fabriquent des avions, sont sujets à des retards matériels, parfois pour des petites choses, mais qui sont indispensables à la machine. Et nous avons malheureusement des retards. Ces retards, nous devons malgré tout les combler.
Mais bien, Pierre Muraccioli, merci absolument beaucoup pour toutes ces précisions. Je répète, vous êtes le président du directoire d'Air Corsica. Merci.
Merci de votre accueil et bonne journée à tous.
Bonne journée.
Au revoir.
Interview réalisée par Caroline Seylon. En foot, même si mathématiquement rien n'est encore officiel, grâce à son succès hier soir 2-0 face à Concarneau, le Sporting de Bastia a assuré, à moins d'un cataclysme, hein, son maintien en Ligue 2 grâce à des buts de Santélé Charbonnier inscrits en seconde période. Les Bleus enchaînent une troisième victoire consécutive et atteignent la barre symbolique des 46 points, généralement synonyme de maintien. Un objectif qui semblait inatteignable il y a seulement quelques semaines, Jean-Philippe Thibaudot.
Au fond du trou, il y a tout juste un mois après la gifle reçue à domicile par Saint-Etienne, le Sporting a opéré un incroyable, pour ne pas dire improbable, redressement. 4 victoires et 1 nul lors des 5 dernières rencontres, meilleure équipe de Ligue 2 sur cette période et 46 points au compteur depuis hier, synonyme donc de maintien. Car même si rien n'est encore officiel mathématiquement, il faudrait une catastrophe sans précédent pour ne pas voir le Sporting en L2 la saison prochaine.
On a fait un très très grand pas si on n'y est pas mathématiquement.
Michel Moretti, coach du SC Bastia.
Bien sûr, c'est source de satisfaction, parce qu'on sait que avec ce nombre de points engrangés, on a beaucoup de chances de repartir en Ligue 2 l'an prochain. On a su relever la tête peut-être au moment où c'était le plus difficile, peut-être au moment où le plus grand nombre de personnes nous enterraient. Très très fier d'eux et très content pour eux, très content pour le club. Et après, c'est ce que le club mérite, c'est ce que ses supporters méritent. Donc bien sûr, c'est une énorme, encore une fois, source de satisfaction.
Hier, grâce à Santélé Charbonnier, mais surtout grâce à une nouvelle fois un état d'esprit irréprochable, le Sporting a décroché la victoire la plus importante de sa saison. Et ce n'est pas le défenseur Cheikh Keïta, fou de joie au coup de sifflet final, qui dira le contraire.
On l'a fait, un vrai soulagement. 3 points chez nous à domicile pour le maintien, c'est vrai, c'est énorme. Et on est très, très heureux.
Avec 4 rencontres encore à jouer et plus aucune pression, le Sporting peut désormais se faire plaisir sur cette fin de saison.
Et de son côté, la CA s'est inclinée à Valenciennes 1-0 face à une équipe condamnée à la nationale l'an prochain. Trop diminuée avant la rencontre, frustrée durant tout le match, les ACistes sont passés à côté de la rencontre, Laurent Diffraye.
Face à une formation de Valenciennes déjà reléguée en national, tout était réuni pour la CA pour valider officiellement son maintien et pourquoi pas rêver des play-offs. Oui mais voilà, les ACistes avec 9 joueurs à l'infirmerie ont été bousculés par des Valenciennois qui n'avaient pas le visage d'un relégué. Les hommes d'Olivier Pantalone ont subi les très nombreuses offensives nordistes en première mi-temps et ont même failli encaisser un but dès la 6e minute par Fouillandoa. Malgré des belles occasions de Soumano et Nouri, ça pêche toujours dans les derniers gestes. Pas assez pour espérer mieux à la mi-temps. À peine revenu des vestiaires, la CA se fait surprendre par des Valenciennois toujours aussi dominateurs et Fouillandoa ouvre le score à la 48e à la suite d'un cafouillage dans la surface. En deuxième mi-temps, les Ajacciens ont eu les occasions pour égaliser, mais à chaque fois, le dernier geste leur faisait défaut. Dans une rencontre marquée par 7 cartons jaunes, dont 5 pour les rouges et blancs, et une expulsion de chaque côté après la rencontre, la CA peut être frustrée de cette défaite, mais les rouges et blancs seront en Ligue de l'an prochain à 99%, et c'est bien là l'essentiel.
Et à la suite d'une bagarre après la rencontre, le portier ajaxien François-Joseph Solacaro a été expulsé au classement. La CA est 13e avec 45 points. Prochain match samedi avec la réception de Quevilly-Rouen au stade Michel Moretti. Le marché de Noël se tiendra-t-il au pied de la statue des Quatre Frères? On est encore un petit peu loin, c'est l'annonce faite en tout cas par la mairie d'Ajaccio. En attendant, la place du Diamant est en chantier pharaonique qui va subir l'assaut de 80 camions par jour dès vendredi. Les 205 places supplémentaires de parking doivent être creusées à 11 mètres sous le sol. L'avenue de Paris va être fermée pendant 4 mois pour assurer une base arrière avec toutes les nuisances que cela comporte. Situation qui interroge la dizaine de commerçants qui travaillent autour pour le Ortoli.
Le kiosque à musique a disparu, laissant place à la cacophonie de travaux sur la place du Diamant, vaste gruyère de béton et de terre. Première loge sous les arcades, Laurent Murat, restaurateur, a dû retirer sa terrasse. Résultat,
entre 60 et moins 80% de notre chiffre d'affaires. Là, ça risque d'être un peu plus compliqué à partir de lundi matin. On va voir, peut-être que la mairie va nous donner un petit coup de main avant. On attend ça avec impatience.
Sur l'avenue de Paris, Frédéric Petit, chocolatier, se prépare à une drôle de guerre avec philosophie. Pendant 4 mois, des mines chimiques seront tirées sous ses pieds pour creuser 205 places de parking.
Pour l'instant, on arrive à limiter la casse. Après, il faudra voir quand la rue va être fermé quand ils vont avancer un peu plus sur les travaux. Forcément, on a une inquiétude. Après, si ça se passe comme c'est là maintenant, c'est gérable, on va dire.
Gérable, oui, à condition que le chantier ne s'éternise pas. Et vu consulaire et commerçant, Jeanne Frassat, il sait que ces travaux sont un mal pour un bien.
Ça a l'air de commencer dans les délais qui ont été impartis, donc c'est plutôt encourageant. La place n'était pas adaptée à une capitale du sud, quoi. Il faisait très chaud l'été, très froid l'hiver, trop de minéral, à mon avis, et pas assez de végétation.
La mairie semble optimiste sur le calendrier. Elle rappelle que 190 arbres vont être plantés sur cette esplanade qui ressemble aujourd'hui à une immense carrière.
Le syndicat Unité Police de Corse du Sud dénonce la décision de rouvrir la circulation dans la rue du Commissariat, la rue Fioré, là, pendant les travaux de la place du Diamant, dans un communiqué. Le syndicat majoritaire des gardiens de la paix s'inquiète quant à la sécurité des agents et à leur capacité à intervenir rapidement si la route est bloquée. Il réclame à minima que cette reprise de la circulation ne soit que temporaire et ne se maintienne pas au-delà des travaux. Pour rappel, l'avenue de Paris sera fermée à partir de vendredi et pendant 4 mois. Une question maintenant, où en est le déploiement de la fibre optique en Corse depuis la signature fin 2018 de la délégation de services publics en faveur du déploiement du très haut débit dans l'île entre la collectivité de Corse et XP Fibre? Le chantier se poursuit, un chantier à 275 millions d'euros, dont 52 de subventions réparties entre l'État et la collectivité. Il ne reste à ce jour que 20 000 prises optiques à construire sur les 170 000 initialement prévues. Le Grand Bastia et le Grand Ajaccio étant des zones d'initiative privée sur lesquelles la collectivité n'est pas intervenue. Un point sur la situation avec Éric Ferrari, c'est le directeur de l'aménagement numérique de la collectivité.
D'ici la fin de l'année, l'ensemble de nos communes, y compris les plus rurales, seront raccordées à la fibre. Alors évidemment, entre la construction et la commercialisation, il y a un délai légal de 3 mois. C'est-à-dire qu'une fois que la prise est construite, il faut 3 mois pour que les opérateurs commerciaux s'engagent sur la commercialisation. Et sur donc ces 151 000 prises dont je viens de vous parler, eh bien, en termes de commercialisation, aujourd'hui, 53 000 prises sont d'ores et déjà commercialisées, c'est-à-dire des gens ont raccordé leur box à un opérateur commercial. Et l'opérateur qui commercialise le plus sur ce réseau, l'opérateur Orange, qui 70% des prises commercialisées aujourd'hui sont commercialisées par l'opérateur Orange, suivi de SFR à 23,4%.
Les infrastructures et les usages numériques, les enjeux d'inclusion, d'appropriation, de performance pour la population et les entreprises. Un thème au cœur du magazine de la rédaction dans un instant à midi et demi avec Roland Frias. Un coup de projecteur maintenant sur un livre, pas n'importe lequel et pas aujourd'hui par hasard en fait. Le livre de Jean-Pierre Fleury, que les auditeurs de RCFM connaissent bien pour sa collaboration dans Naturellement Vôtre. Ce livre s'appelle « Ma mère arménienne ». Il est signé ce soir à la librairie La Marge. Je vous fais le pitch. De Granville à Beyrouth, d'Alep à Erevan, l'auteur nous emmène sur les traces de sa mère, Azadoui, le passé et le présent, la grande histoire et la petite s'enchevêtrent pour nous faire découvrir avec beaucoup d'humanité, l'histoire du peuple arménien, un voyage de mémoire où le pire de la barbarie et du cynisme rencontre le meilleur de la fraternité humaine. Jean-Pierre Fleury, bonjour.
Bonjour.
Vous signez donc en fin d'après-midi votre livre à Ajaccio. La date, c'est pas un hasard. On commémore aujourd'hui le 109e anniversaire du génocide arménien. Est-ce que, personnellement, cette barbarie vous a construit ?
Je pense qu'elle est toujours d'ailleurs en train de me construire, puisque ça m'a permis de découvrir un destin, celui de ma maman, celui d'Azadoui. Azadoui, ça veut dire fille de la liberté, d'ailleurs, en arménien. Et elle s'appelait aussi Joséphine, d'ailleurs, Joséphine Fleury. Fleury, c'est un nom normand. Hein. Et moi, je me suis aperçu, petit à petit, en allant au départ sur... J'ai jamais subi le moindre racisme, bien entendu, mais j'étais pas vraiment conscient que j'avais la moitié de mon sang qui venait de très très loin, parce que l'Arménie telle que je la voyais, c'était plutôt la planète Mars au Moyen-Âge, quoi, telle que on pouvait l'imaginer au moment où ma maman est née, c'est-à-dire elle est née en 1912, ma famille, mon arrière-grand-père, et je m'en suis aperçu, ma mère voulait jamais en parler. Il y avait une omerta, elle disait avant de se taire, n'oublie pas, c'est des Turcs qui nous ont sauvés, mais n'empêche que la tête de son grand-père, elle l'a vu défiler devant elle, et qu'il y a eu beaucoup de choses atroces comme ça. Et elle disait, n'oublie pas, c'est des Turcs qui nous ont sauvés, pour ne pas, ma sœur et moi, nous charger de haine. Parce que c'est un fardeau qui est très lourd à porter pour des enfants. Et donc, je lui ai désobéi, je suis allé petit à petit, les choses, je me suis aperçu que ma mère était un petit peu différente, puisque une fois, par exemple, le début de cette histoire, c'est que on était en train de visiter une maison pour l'habiter. C'était la crise du logement. Ça remonte à il y a très longtemps, 1950 et quelques. Et ma mère s'est mise à pleurer. Pourquoi ma maman pleure-t-elle ? Eh bien, parce que simplement, elle avait entendu parler arménien, chose qui s'était pas produite depuis environ 15 ans, quoi. Donc, elle était submergée d'émotions. Et ce livre, c'est un livre d'émotions, de tendresse, et c'est un livre pour lui rendre hommage, ça c'est évident, mais aussi pour essayer de faire que l'oubli n'engrasse pas tout ça, ne n'englue pas tout ça, parce que c'était quelque chose de pernicieux, l'oubli.
Vous avez peur que l'histoire soit oubliée, justement ?
Bien sûr, elle est... tout est fait, vous savez, les fake news dont on parle beaucoup maintenant, c'est quelque chose qui a certainement été inventé aussi avant, ça portait un autre nom, puisque les Turcs n'ont jamais reconnu ce génocide. Et ça depuis donc 1915-1920, hein, qui était la date de... Pourquoi d'ailleurs le 24 avril 1915, on a retrouvé des papiers officiels d'un type qui s'appelait Talat Pasha, qui était au gouvernement, quelqu'un de très important de le gouvernement turc et ottoman, et qui, ce firmant, cette circulaire disait, vous avez le devoir de tuer, comme si c'était pour les préfets, l'équivalent des préfets, vous avez le devoir de tuer tous les intellectuels arméniens. Ça a été le début des massacres. Donc c'est quelque chose qui existe, mais qui ne peut pas... Alors le mot génocide, effectivement, n'existait pas à l'époque. C'est un mot qui est sorti je ne veux pas dire inventé, mais dont on a commencé à se servir, je crois, vers 1940. Non pas d'ailleurs pour la Shoah, parce qu'on l'ignorait, elle n'avait pas encore eu lieu. C'est un mot qui a émergé comme ça. Donc effectivement, quand on joue sur les mots, ça peut pas être un génocide, puisque le mot n'existait pas. Mais peu importe, d'ailleurs, il y aurait eu une personne, deux personnes ou trois personnes. On était dans l'ignominie, dans la façon ça s'est fait, puisque on rappelle quand même... C'est des choses qu'on retrouve hélas dans tous les massacres. Moi, je suis allé en Rwanda, je suis allé au Cambodge et autres. J'ai retrouvé toutes ces saloperies qui consistent à serrer les pieds, par exemple, des enfants qui veulent plus marcher parce qu'ils ont mal aux pieds. On leur met des fers à chevaux, vous voyez, des choses comme ça qui sont... J'ai peur que ce soit, bien sûr, oublié, et j'ai surtout peur qu'un jour, à cause de cet oubli d'ailleurs, l'oubli, ça peut aussi être l'indifférence, et tout autour de nous, il se passe actuellement des choses qui sont à peu près identiques.
Merci Jean-Pierre Fleury, signature ce soir à la librairie La Marge. Ma mère arménienne. Pardon ?
Je dis merci à vous.
Je vous en prie. On termine ce journal avec la Méditerranée et cette série de reportages sur Naples, dans Maréladine. Voilà, un petit peu d'air. Ce matin, ce mercredi, Jérôme Souzini nous fait état de sa rencontre avec notre collègue de Via Stella, Caroline Ettori, qui partage sa vie entre justement Ajaccio et Naples.
Et toujours à Naples, depuis cette assemblée de la COPEAM, le duo visuel de Méditerranée, avec Caroline Ettori, bonjour.
Bonjour Jérôme Souzigne.
Alors Caroline Ettori qui est présentatrice, productrice d'une émission sur François Corse Via Stille qui s'appelle Génération Méditerranée. Pour certains de nos auditeurs connaissent évidemment, quand on parle de Naples, vous y êtes plus que souvent. C'est une ville que vous définiriez comment ?
Pour moi, Naples, c'est une ville qui est étrangère à la notion de trop. Ce n'est jamais trop beau, trop violent, trop intense. La ville, elle a été inventée pour les superlatifs, ou peut-être est-ce l'inverse, on ne sait pas trop. Mais il y a cette énergie qui nous porte, qui nous entraîne. C'est un tourbillon, un chaos magnifique. On ne peut pas parler de Naples sans parler évidemment de ce paysage urbain si particulier. On ne peut pas parler de Naples sans les Napolitains, évidemment. On ne peut pas parler de Naples sans la langue napolitaine, sans la musique napolitaine, sans cette culture. Encore une fois, c'est cette énergie. Alors, je ne sais pas si c'est la proximité du Vésuve qui veut ça.
Un peu Los Angeles, quoi.
Un peu. C'est un peu, alors, dans deux énergies complètement différentes. Mais en tout cas, on retrouve comme ça quelque chose qui transcende un peu tout, quoi.
On est au bout de quelque chose, mais en même temps, ce bout de quelque chose est dirigé vers autre chose. C'est un peu le sentiment qu'on a. C'est une espèce de plateforme.
Oui, c'est un pont. C'est un pont, c'est un port, c'est une civilisation à part entière. Ici, tout commence et tout finit.
Eh bien, c'est fini pour nous. Merci beaucoup, Caroline Ettori.
Merci à vous.
Et c'est la fin aussi de ce journal. Merci de votre attention. Retour de l'actualité insulaire. RCFM, la radio, c'est à 16h. L'info, c'est quand vous voulez sur nos réseaux sociaux, X et Facebook. Et bien sûr, sur Bleu RCFM, à 12h30, vous retrouverez Roland Frias pour le magazine de la rédaction sur le numérique.